Alors bonjour à chacune et à chacun pour ceux qui écouteront après. Merci de venir un samedi matin dès 9h pour parler du temps. Dans la Bible, Dieu nous explique qu'il fait les choses en leur temps. Le long passage de l'Ecclésiaste que vous avez sur les petits livrets nous décrit cette bonté du temps que Dieu a fait. Il nous demande de vivre ce qu'il nous donne à vivre quand il nous le donne à vivre. Et pourtant, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le temps semble se réduire de plus en plus, où tout s'accélère, les sollicitations foisonnent, les urgences s'enchaînent dans un rythme frénétique. On pourrait parler d'une dictature du temps. Et notre cerveau peine à suivre. Nous allons parler aujourd'hui de l'homme dans son rapport au temps. Ce temps dans lequel nous vivons en tant qu'être spirituel et charnel. Dieu, lui, il vit dans l'éternité. Nous autres, par notre corps, nous sommes soumis à la loi du temps. Le temps est un thème existentiel. La notion du temps, écrit Merleau-Ponty, n'est pas un objet de notre savoir, mais une dimension de notre être. Il nous faudrait l'éternité pour vous parler du temps. Aujourd'hui, nous ne serons pas exhaustifs, faute de temps. Nous allons traiter de quelques temps qui nous ont plu et sur lesquels nous désirons réfléchir avec vous. Donc, il y a trois parties, le temps et nous. La deuxième partie, ce sera « Le temps est supérieur à l'espace ». Vous reconnaissez un thème du pape François. Et puis, la troisième partie, « Le temps de la croissance ».
Alors, après cette magnifique introduction de la part d'Armel, je commence sur « Le temps et nous », la première partie. Et nous nous sommes intéressés d'une certaine manière, au rapport problématique et multiple que nous vivons, nous, au moins dans les sociétés occidentales, par rapport au temps. Alors, je vous propose une petite description de toutes ces maladies du temps, d'une certaine manière, dans nos sociétés postmodernes. Une des premières maladies, c'est l'ennui. Paradoxalement, pour ceux qui ont trop de temps ou ne savent pas ou plus comment le remplir. Vous riez, mais les chômeurs sont quand même assez nombreux dans notre pays, dans les sociétés occidentales. Les malades et les personnes âgées. Bien sûr, il y a le contraire de l'ennui. C'est peut-être plus sur ce mode-là que nous vivons le temps aujourd'hui. Nous avons une facilité déconcertante pour prévoir deux activités incompatibles en même temps. Ce syndrome de l'agenda à double ou triple niveau, autrement dit le télescopage d'agenda, ou par exemple aujourd'hui on pourrait dire le télescopage des dates. Voilà. Est en général le signe d'un rapport au temps vécu sous le signe du manque. Pour ceux qui n'ont pas assez de 24 heures pour remplir une journée, conditionnée en secteurs bien définis, l'agenda de la vie professionnelle, l'agenda de la vie familiale, ou pastorale, ou monastique. Et à l'intérieur de ces catégories, nous trouvons des sous-catégories. La paroisse, la liturgie, telle association, telle activité communautaire, le ménage, les repas, les mails, etc. Peut-être une autre des maladies aussi chroniques et bien visibles aujourd'hui, c'est celle de la performance. Pour que le temps soit rentabilisé, ce qu'expriment les expressions suivantes, le temps c'est de l'argent, gagner du temps, perdre son temps. Nous nous surprenons à nous impatienter parce qu'une fenêtre de notre écran d'ordinateur ne s'ouvre pas assez vite. Et il faut voir la réaction que nous pouvons avoir. parfois verbales, parfois fort violentes, ou que le moteur de recherche peine à trouver ce que nous l'avons demandé. Ceci alors même que, paradoxalement, que s'accroît l'exigence de prendre le temps d'écouter ces rythmes biologiques, d'avoir du temps pour soi. Enfin, une autre maladie sur laquelle je vais revenir beaucoup plus, mais je fais un petit teaser, l'accélération du temps. Le sentiment que tout s'accélère, que tout va très vite, trop vite. Le système économique repose sur le sentiment d'urgence, la technicisation croissante des tâches, l'accélération des transports, des communications, de la production, de la circulation des biens, qui provoque l'augmentation du stress, de l'angoisse, de la dévalorisation de soi, de l'insécurité, de la perte d'une identité stable, la perte de la mémoire individuelle et collective. On ne voit plus sa vie passer. Alors je reviendrai sur ce phénomène de l'accélération parce qu'il me semble vraiment une clé de lecture pour notre temps. Face à ces maladies du temps apparaissent des temps alternatifs et qui ne sont pas forcément réels. Alors, vous avez le temps rêvé. On est proche de l'utopie. Cette représentation du temps admet la possibilité de faire plus tard ce que l'on voudrait faire. Quand j'aurai fini mes études, je ferai ceci ou cela. Quand je serai en solitude, j'aurai le temps de. Quand les enfants seront grands, je ferai ça. Quand je serai à la retraite, quand je serai dégagé de cette responsabilité, quand je serai, etc., etc. Pourtant, le temps est implacable. On ne le possède pas, on ne le maîtrise pas, on ne peut ni l'allonger, ni le raccourcir. On ne sait jamais de combien de temps on disposera après. Le présent permanent, on appelle le présent permanent. Alors, c'est le rapport au temps induit par l'écosystème des médias sociaux, dont Twitter, j'imagine que vous connaissez tous Twitter, est le représentant le plus éminent. On est toujours dans les maladies du temps dans les sociétés postmodernes. Alors Twitter, vous savez que il est conçu pour déclencher des relations continuelles et instantanées aux provocations du maintenant. Alors c'est un peu toujours la même chose, il devient insupportable qu'un train ait 5 minutes de retard, qu'un correspondant ne réponde pas au téléphone, qu'un mail n'ait pas reçu de réponse dans les 15 minutes. Bon, je pense qu'Ombline peut témoigner que je suis particulièrement atteint par cette maladie. La capacité à patienter chute, de même que la capacité à se concentrer sur une chose plus de 10 secondes. Eh oui, je crois que c'est le temps moyen d'une page sur Internet, par exemple. Voilà. Si vous accrochez pas plus, au bout de 10 secondes, hop, on zappe. C'est bien. Il faudrait peut-être changer le temps de l'horizon, d'ailleurs. Ça serait pas mal. Voilà. On a l'impression de ne pas être performant quand on n'arrive pas à faire deux, trois ou davantage de choses à la fois. De ce point de vue, alors j'ai découvert ça, moi je pensais que c'était propre qu'aux hommes, mais non, c'est aussi propre aux femmes. Il faut rappeler que le cerveau, notre cerveau n'est programmé que pour une seule tâche à la fois. Que pour une activité à la fois. Le temps ignoré aussi maintenant, le temps ignoré. Alors ça, c'est plutôt le zapping, ce qu'on appelle le zapping, qui rend impossible un rapport au temps construit par la mémoire. Un rapport au temps construit par l'ignorance d'un rapport au temps construit par la mémoire. On reviendra sur tout ça. C'est le phénomène de la drogue qui efface la condition présente pour donner l'illusion de vivre un présent meilleur. Ou indifférent, ou qui cherche le salut hors du temps. Un vivre dans un présent permanent, ça nous permet finalement de nous délester du passé. Pourtant, le temps est inséparable d'une histoire présente à laquelle on ne peut pas échapper et qui ne prend sens qu'en étant construit sur l'organisation de la mémoire. Un autre phénomène de notre époque, bien sûr, c'est le temps nié. C'est par exemple le refus du temps qui passe. L'exaltation de l'image de la jeunesse, nous allons y revenir, la peur de vieillir. On veut avoir un enfant à plus de 60 ans, c'est possible aujourd'hui. Peut-être qu'un jour nous pourrons survivre dans un clone. Nous cherchons à continuer à communiquer avec nos proches après la mort en leur laissant des messages qu'ils recevront régulièrement. C'est des choses qui existent. Donc, vous pouvez enregistrer des messages. Et puis... Oui, c'est ça, oui. Ouais. Pourtant, la mort, hein, quand même, reste l'horizon le plus certain de la vie humaine. Hein. Comme disait Heidegger, c'est la plus grande de nos possibilités. Hein. Enfin, c'est la fin de toute possibilité. Celle-là, on est sûr. S'il y a une chose qui va arriver dans notre vie dont nous sommes sûrs, c'est que nous allons mourir. Et puis, bien sûr, le temps virtuel. Donc, c'est la caractéristique, par exemple, des jeux vidéo qui proposent deux vies, trois vies ou plus, afin d'échapper à ce que l'on croit considérer comme l'échec d'une vie parce que l'objectif n'a pas été atteint ou la performance insuffisante. Ça m'a beaucoup frappé en faisant des recherches. C'est sûrement un des caractères les plus surprenants du monde numérique. Alors que tout vivant s'en va vers la mort, et que les processus physiques ne reviennent jamais en arrière, l'univers engendré par le calcul, l'univers numérique, permet de retourner à un point antérieur et de recommencer. Vous voyez, par exemple, c'est dans les jeux vidéo, il n'y a jamais de game over, en fait, maintenant, parce que je peux hop, tout de suite reprendre une vie, une partie. Ouais. Mais c'est aussi nos traitements de texte, si vous y réfléchissez bien. Avant, quand on tapait quelque chose, c'était écrit, quoi. Si on s'était trompé, il fallait tout recommencer, aujourd'hui, vous voyez, on peut effacer, recommencer, déplacer à tout moment, vous voyez, comme si voilà, le monde numérique nous permettait de sortir de ce continuum, vous voyez, hein, auquel nous ne pouvons pas empêcher. Et vous allez voir l'incidence que ça peut avoir sur notre vie. Vous voyez, le processus peut être répété jusqu'à ce qu'il donne satisfaction. C'est le jeu vidéo ou notre petite touche annulation sur notre clavier. Vous voyez, et c'est un événement de taille qui est quasiment surnaturel parce que c'est l'annulation de l'irréversibilité fondamentale du monde physique auquel nous appartenons et du temps. Je reviendrai là-dessus, hein, c'est une des grandes caractéristiques du temps, c'est son irréversibilité. Vous voyez, pareil, réversibilité de la matière numérique est contraire à tout ce à quoi notre humanité a été habituée sur le plan perceptif depuis des siècles. Alors, je vais vous prendre juste un petit exemple que je tire de la vie. Cette expression qui est née dans les années 80, « refaire sa vie ». C'est une expression qui apparaît en même temps qu'Internet. Recommencer, voyez, comme si on pourrait recommencer tout de bon son existence. Ou alors la remettre à neuf, vous voyez, comme on remettrait une pièce vétuste. Mais bien sûr, une telle réflexion existentielle n'est évidemment pas envisageable. On ne peut effacer, refaire, reconstruire ce qui fut et demeure par le fait même irrémédiablement fixé dans le passé. Oui, je peux quitter femme et enfant et dire « je refais ma vie ». Je ne peux pas effacer mes femmes et mes enfants et tout ce que j'ai vécu. Ou alors on va nager en pleine folie ou en plein délire totalitaire. C'est le roman 1984 de George Orwell que vous connaissez tous ou auquel nous avons tous été soumis pendant nos études au collège. Hein, vous vous souvenez, il y a un ministère de la vérité qui est chargé de refaire, de réécrire sans cesse l'histoire aussi souvent que le pouvoir le juge nécessaire. Alors il me semble qu'on ne refait jamais sa vie, on la continue autrement, où on la prolonge dans une direction différente, mais on ne refait pas ses vies. J'avais mis une petite note, les mots sont importants, il faut être sensible aux mots quand on parle. Par exemple, je prenais l'exemple du mot « gérer », qui est vraiment un terme temporel, voyez. Donc c'est un terme administratif du vocabulaire économico-technocratique. Mais aujourd'hui, voyez, on gère son existence, on gère sa vie affective. Mais est-ce qu'on gère son budget comme on gère sa vie amoureuse? Bon. Alors, qu'est-ce que cela indique? Ben, une maîtrise parfaite et complète de nos vies. Alors, nous allons voir aussi que le temps est aussi le lieu de révélation de l'humilité de la condition humaine, le lieu où se révèle et que s'exerce notre finitude. Alors, je passe au deuxième point, 1.1.2, le temps présent entre amnésie et no future. Alors, nous avons un rapport difficile au passé. Dans la vie quotidienne, une information chasse l'autre, rendant la mémoire de plus en plus fragmentée et l'histoire illisible. C'est encore l'informatique d'une certaine manière, j'ai rien contre l'informatique, hein, je m'en sers tous les jours, mais on fonctionne, vous voyez, sur le mode des dossiers que l'on ouvre et que l'on ferme. Au point peut-être de devoir aujourd'hui insister sur les commémorations et autres avatars du devoir de mémoire, faute de quoi le passé disparaît et donc le sens du présent. En fait, tous ces devoirs de mémoire, de commémoration, c'est une maladie de la manière dont nous vivons le temps et de notre rapport à l'histoire. Je suis frappé aussi comment les jeunes aujourd'hui sont, bon, ça fait de vieux schnock, mais ont un rapport difficile à l'histoire, connaissent mal le passé, leur histoire, etc. Vous voyez, c'est comme les musées. À partir du moment où on multiplie les musées, qu'on met des œuvres d'art dans les musées, c'est-à-dire qu'il y a un rapport difficile à l'art et à l'actualité de l'art. Parce qu'on en fait comme des réserves. Quand on fait des réserves animalières, ben c'est qu'il y a un problème, on est en train de détruire les animaux. Bon. Alors, en même temps, ce qui est paradoxal, mais c'est normal quand il y a une maladie, en même temps, le passé nous rattrape. Et on n'en finit pas de rechercher ses origines. C'est le succès des sites généalogiques. Je ne sais pas si vous avez été voir, mais alors moi j'étais frappé, mais c'est impressionnant, quoi. Tout le monde recherche de quel... Vous voyez, comme il y a un déficit par rapport à la mémoire, on est tous à la recherche de notre origine. Bon, pourquoi? Parce qu'on y reviendra, mais le passé donne la clé, bien souvent, de l'identité du sujet. Et l'espèce d'engouement actuel pour les archives publiques et privées, par exemple sur la Première Guerre mondiale, qui touche tout le monde, même les meilleures communautés, sans compter les projets scolaires, oui, montre le besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Je dis ça, c'est parce que on a fêté il y a peu de temps la fin de la Première Guerre mondiale, et il y a eu tout un de sortes de commémorations, d'écrits, etc. Et c'est peut-être la raison, c'est que la Première Guerre mondiale a été un catalyseur de l'identité française. Et c'est peut-être à cause de ça qu'on éprouve, dans une période d'incertitude nationale, le besoin d'une relecture et d'une assimilation de cette histoire. Bref, on est en même temps à la recherche d'un enracinement. Ça tease pour la prochaine séance. Alors, si nous avons un problème par rapport au passé, nous avons aussi un problème par rapport à l'avenir. L'utopie n'est plus à la mode. Elle n'a pas résisté aux grandes désidéalisations qui ont suivi l'échec des totalitarismes et les boucheries du XXe siècle. Ce que l'on appelait les grands récits, qui étaient fondés sur un avenir qui allait arriver, etc. Tout ça, vous voyez, on ne vit plus sous un mode utopique. Il y aura une fin, ou le bonheur, etc. La perspective d'un monde transcendant, même meilleur, vous voyez, n'attire plus. On veut être heureux tout de suite. Bien sûr, il y a aussi la crise écologique, le développement démographique, la dilapidation des ressources naturelles, la menace terroriste, dont on a encore un exemple depuis hier, ou simplement les données de l'échiquier géopolitique infuse le sentiment que l'homme est nuisible à lui-même, pour lui-même, et pour le vivant en général, et donc il conduit le monde à sa perte. C'est ce qu'a répété le pape François au Japon. C'est-à-dire, nous avons la capacité, c'est aussi un des très grands phénomènes du XXe siècle, qui se prolonge dans le XXIe et qui impacte notre saisie du temps, notre vision, notre conception du temps, c'est que nous pouvons nous détruire. L'homme a la capacité aujourd'hui de pouvoir détruire le monde dans lequel il est. Donc vous pouvez imaginer ce que ça crée comme angoisse par rapport au futur, par rapport à l'avenir, par le fait de mettre des enfants au monde. Rien ne permettra de réparer les dégâts irréparables déjà commis. Le processus est irréversible et laisse parfois présager le pire, c'est-à-dire la destruction du monde. Vous voyez comment, dans quelle schizophrénie on peut vivre, qu'à un certain moment on a l'impression qu'on peut tout refaire et en même temps, on s'aperçoit bien que non, il y a des choses qu'on ne pourra pas refaire. Donc comment se tirer de là? Alors, puisque l'avenir semble bouché et qu'il est impossible de se projeter dans l'avenir, est-il encore censé de s'engager pour toujours dans quelque chose ou avec quelqu'un? L'expérience de nos contemporains, comme les statistiques, illustre la difficulté d'intégrer l'allongement de la durée de vie humaine dans un projet de vie. En fait, vous voyez, la difficulté, c'est peut-être pas qu'on va vivre longtemps, mais c'est de se dire pourquoi. On change de travail, on change d'études, de lieu de vie, de conjoint. Peut-être que là, on est moins concerné. Et nulle part, on ne peut plus apprendre la stabilité, la fidélité à des choix, la hiérarchie des valeurs, la construction du sujet. Et je voudrais un peu insister sur ce point et revenir sur le problème de l'accélération dont je vous parlais. Je vais vous résumer un livre, voilà, ça vous évitera de le lire. Alors, j'espère que vous lirez, que je pense un livre d'un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, j'espère que je prononce bien, voilà, qui est né en 1965, donc qui est contemporain, qui est un sociologue et un philosophe, donc ce qu'on appelle de l'école de Francfort, et qui, à mon avis, a écrit un livre majeur pour essayer de comprendre ce que nous vivons aujourd'hui et qu'il a appelé « Accélération, une critique sociale du temps ». Alors, Rosa questionne le projet de la modernité par rapport au temps, et se demande si ce sentiment que nous avons d'accélération du temps qui frappe nos sociétés depuis les années 1970, ce sentiment, comme je disais, qui s'exprime par « la vie nous échappe », est-ce que ça peut être analysé, vous voyez, décrypté? Est-ce que c'est véritablement fondé dans le réel? Ou est-ce que c'est simplement un sentiment que nous aurions, voilà? Ou est-ce qu'il résulte vraiment d'une évolution de nos modes de vie? Alors pour Rosa, il y a trois accélérations qui s'enchaînent les unes et les autres, ce qu'il a appelé la spirale de l'accélération. Alors je l'expose et puis je vais prendre un exemple très simple. Il dit d'abord qu'il y a eu une accélération. La première accélération, c'est l'accélération technique. Donc par le progrès des sciences, de la physique, mathématiques, depuis le XVIIe siècle, une accélération technique. Cette accélération technique, elle a entraîné une accélération du changement social. Donc un bouleversement de nos modes sociaux, vous voyez, communautaires, de vivre. Le rapport au travail, le rapport à l'habitat, le rapport à l'espace, etc. Et ce changement, cette accélération du changement social a entraîné une accélération du rythme de vie, c'est la troisième accélération. Donc ça, c'est intéressant, vous voyez, je trouve. Donc une accélération technique qui entraîne une accélération du changement social, qui entraîne une accélération du rythme de vie, et bien sûr, après, ça boucle. Alors, ce qui est important de saisir, ce qu'il veut montrer, c'est que l'accélération technique, qui est le premier facteur d'accélération, ne produit pas seulement un changement quantitatif, mais entraîne aussi une transformation qualitative. C'est ça qui est très nouveau. Alors, je vais vous prendre un exemple. Je pense que là, j'ai pris le plus simple que j'ai pu à vous parler. Vous dansez le rock et vous faites tournoyer votre partenaire. Le rock, c'est une danse qu'on danse à deux. Et vous faites tourner votre partenaire. Mais imaginez que vous accélérez le mouvement. Bah, à partir d'une certaine vitesse, ce n'est plus de la danse, hein, mais c'est un passage dans la centrifugeuse. Voilà, c'est ça. Vous voyez. Donc, alors, c'est un exemple, mais on va voir d'autres exemples. Vous voyez. Donc, vous voyez, ce changement, cette accélération, ce n'est pas seulement une accélération quantitative, c'est une accélération qualitative. Voilà. Alors, voilà d'autres exemples. Par exemple, la naissance de l'automobile, donc accélération technique, hein, due à différentes découvertes, son perfectionnement et son accès plus facile pour les bourses, bref, sa diffusion massive, hein, pensons au Fordisme, qui a été possible grâce à Taylor, oui, a bouleversé l'espace où se déploient les relations sociales, ainsi que la géographie de la société industrielle. Par exemple, la voiture, en permettant des distances bien plus grandes entre le lieu de travail et le lieu d'habitation, a déterminé massivement la structure de l'habitat des villes, des banlieues et même des territoires ruraux. Donc, vous voyez comment une accélération technique a profondément bouleversé notre paysage social. Il y a 200 ans, on faisait 200 mètres ou 300 mètres pour aller au travail et puis on ne quittait jamais, on n'allait pas à plus de 10 lieues dans toute notre existence. Quant à l'accélération du rythme de vie, peut-être que certains parmi vous se rappellent du livre de Brigitte Gros, qui avait fait un succès dans les années 70, 4 heures de transport par jour, qui a donné ce film aussi très amusant, elle court la banlieue. Ouais, bon, ça peut être les années 70. Ouais. Bon, en gros, pour le rythme de vie, vous voyez, ça a accéléré nos rapports. Voilà, quand il faut faire 2 heures de transport par jour pour aller au travail, ben, on n'a plus le temps de cultiver peut-être un jardin. Donc ça a changé nos rythmes de vie. Quand on passe 2 heures, bon, etc., etc. Alors, je vais prendre un autre exemple dans la révolution numérique, parce que c'est peut-être la dernière que nous vivons à l'heure actuelle, puisqu'elle date de la fin du XXe siècle. Donc, cette révolution numérique se manifeste par l'accélération de flux de communication et d'informations engendrés par l'introduction de nouvelles technologies informatiques et médiatiques. Cette accélération technologique, vous voyez, a eu des conséquences profondes sur le monde social, puisqu'elle entraîne l'apparition de nouvelles structures professionnelles, de nouveaux modes de production, de nouveaux modèles de communication et d'une nouvelle vague de compression spatio-temporelle. Par exemple, voilà les Amazon, ces espèces d'immenses entrepôts là où les gens courent, etc., n'auraient pas été possibles sans l'évolution du progrès numérique. Et ça bouleverse profondément la nature et notre relation au travail. Quant à la vie des sujets, le présent tout entier devient instable, se raccourcit. Nous assistons à l'usure et à l'obsolescence rapide des métiers. J'ai un papa qui a fait sa vie professionnelle dans la même entreprise. Nous ne savons même pas quels seront les nouveaux emplois dans 10 ans. Les jeunes qui sortent aujourd'hui des études ne savent même pas ce qu'ils feront dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc, usure, obsolescence rapide des métiers, des technologies, des objets courants, des mariages, des familles, des partis politiques, des personnes. Puisqu'il est possible de changer de sexe plusieurs fois, au moins une fois dans sa vie. De l'expérience, des savoir-faire, pensons à la perte des savoir-faire et de la consommation. De nos jours, grâce à la révolution numérique, le père n'a plus à apprendre grand-chose à ses enfants sur les métiers d'avenir, sur les nouvelles technologies. Mais vous pouvez entendre des jeunes de 18 ans parler d'avant, pour évoquer il y a 10 ans finalement, ou un jeune spécialiste en remontrer à un expert à peine plus âgé que lui sur le up-to-date. Et oui, il faut savoir qu'il y a des jeunes qui ont beaucoup plus de compétences que moi aujourd'hui sur un certain nombre de sujets. Donc c'est le rapport aux générations aussi qui s'inverse. Finalement, le présent raccourci s'enfuit et notre sentiment de réalité, d'identité s'amenuise dans un même mouvement. Voici un autre exemple. Nous n'avons plus le temps de délibérer, dit Rosa, de réfléchir, de formuler, de tester et de construire des arguments. C'est pourquoi en politique, le parti victorieux n'est plus celui qui présente les meilleurs arguments ou le meilleur programme, mais celui qui sera doté des images les plus frappantes, Il y a cette très belle expression, il dit « car les images vont vite, les arguments lentement ». Ainsi, nous assistons au règne de l'opinion rapide, des décisions politiques réactives. Et nous voyons bien que ben voilà, la politique aujourd'hui, alors qu'elle demande du temps, du jugement, l'art de la politique c'est de prévoir, donc c'est de se poser. Eh bien, elle est en réaction parce qu'elle essaye de se mettre au diapason du rythme médiatique et du rythme technologique numérique. Vous savez qu'aujourd'hui, les opérations prennent des microsecondes, des opérations parfois, enfin bancaires, économiques, tout le, dans le monde entier, mais ça, ce n'est possible qu'à cause des programmes informatiques, des monstres qui calculent, mais nous, notre pauvre cerveau, notre pauvre intelligence, elle ne suit pas ça. Et ça broie les gens, finalement. Donc, vous voyez, changement. Non pas l'accélération n'est pas un changement qualitatif, mais un changement qualitatif qui touche tous les domaines. Un autre point qui m'a semblé intéressant chez Rosa, c'est qu'il parle, en fait, cette accélération entraîne ce qu'il appelle le paradoxe de l'immobilisation accélérée. Alors, le paradoxe de l'immobilisation accélérée, je vais détailler lentement. Donc, Rosa montre comment le phénomène d'accélération sociale aboutit de lui-même, paradoxalement, à ce qu'il appelle une immobilisation hyper accélérée, ou une inertie structurelle et culturelle. Alors, il y a d'abord ce qu'il appelle les décélérations dysfonctionnel. Bon, comme ça, vous n'allez jamais lire le livre. Je vais vous donner des exemples. Non, mais ça pose son homme, quoi. Ça montre que c'est... Alors, il y a d'abord ce qu'il appelle des décélérations dysfonctionnelles. Dysfonctionnelles. Donc, décélération dysfonctionnelle. Alors, en fait, qui sont des conséquences de l'accélération. C'est-à-dire que l'accélération engendre, vous allez voir, des décélérations qui entraînent des dysfonctionnements, soit dans la technologie, soit dans la société, soit dans nos rythmes de vie. Décélération. C'est tout écrit. Et voilà, provoqué par l'accélération. Un exemple concret qu'on vit tous, surtout si vous avez vécu à Paris, bah, c'est l'embouteillage pour ma voiture. Vous voyez ? Il fallait aller très vite. Vous voyez, on est passé de la marche à pied à la carriole de cheval, etc. Et quand on arrive à la voiture, donc c'est une accélération et tout d'un coup, décélération dysfonctionnelle, voilà, le principe de l'embouteillage voilà, ou du bouchon. Ouais. Alors, insupportable. Mais bon. Mais, alors non, justement, je ne sais pas. Bon. Plus sérieusement, la dépression nerveuse. La dépression, c'est un phénomène de décélération dysfonctionnelle. Et ça, pour moi, c'est très intéressant. Ouais. Comme il faut aller toujours plus vite, comme il faut rentabiliser au maximum son temps, le surcharger de tâches multiples, il devient impossible de rien faire vraiment selon l'ordre, selon la durée qu'exige l'ordre réel. Et donc, vous voyez, la dépression, ou bien ce qu'on appelle le burn-out, hein, se griller, ou aujourd'hui le bore-out, boring, s'ennuyer. Hein. To bore, c'est s'ennuyer. Le boring, c'est bien du moins. Donc le bore out, c'est un syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Vous voyez, cette dépression, toutes ces manières, ces modes de dépression sont une pathologie de la vie grandissante. Semblable voilà, à la paralysie du pilote de chasse. Vous voyez, une décélération dysfonctionnelle. La paralysie du pilote de chasse, vous voyez, qui est cloué à son siège par la force gravitationnelle. Un autre point intéressant de Rosa, c'est ce qu'il appelle, c'est démultiplier indéfiniment notre vie ici-bas. Alors, il montre d'abord que parmi les moteurs de l'accélération sociale, il y a la logique de la concurrence. D'ailleurs, le mot renvoie précisément à la course, concourir, et à la victoire du plus rapide. Alors, ce moteur social de la concurrence s'associe à un moteur culturel que Rosa appelle la promesse de l'éternité. Il n'y a pas de transcendance. Il est ouvert, mais il le dit lui-même. Il a été élevé dans une école privée protestante, mais bon, lui-même n'a pas l'air d'être. Mais il est pas du tout fermé. Alors, cette promesse de l'éternité est plutôt un substitut à la vie éternelle. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette promesse de l'éternité ? Il dit, parce que nous ne croyons plus en une vie après la mort ou au-delà de la mort, il va donc s'agir par l'accélération de démultiplier indéfiniment notre vie ici-bas. C'est-à-dire, dans le laps de temps qui nous est imparti, il faut caser le maximum d'expérience et de métamorphose, transformation. Et donc, vous voyez, dans le laps de temps qui nous est imparti, vous voyez, donc, multiplier les expériences, multiplier les métamorphoses. À l'infini par assomption se substitue un infini par division. À l'infini par assomption se substitue un infini par division. Et Rosa prend un exemple, je trouve, frappant. Oui. Vous allez voir que vous connaissez tous déjà. Il dit, nous sommes passés d'un changement intergénérationnel dans le monde d'avant, où, ce qu'il appelle la prémodernité, où il fallait des siècles pour passer d'une époque à une autre. Entre la charrue et le tracteur, il a fallu des siècles. Donc, on se transmettait de génération en génération. Et le changement était sur un temps très long. Donc, il dit, on est passé d'un changement intergénérationnel dans la prémodernité, ce qu'il appelle la prémodernité, à un changement générationnel avec la modernité. Où là, la bascule se faisait d'une génération à l'autre. Ce qu'il appelle le monde où nous sommes aujourd'hui la postmodernité, il dit que nous sommes passés à un changement intra-générationnel. Vous voyez, changement intergénérationnel, changement générationnel et maintenant intra-générationnel. Par le divorce, par exemple, par la mobilité professionnelle, par ce qu'on appelle le multitasking, donc la multitâche, par l'obsolescence des objets et des lieux mêmes de notre quotidien, enfin par un monde ramené à ce qu'il appelle à des structures jetables. Structures jetables, le monde comme structure jetable. Moi, je me souviens encore, ma maman, elle a hérité au jour de son mariage de l'armoire de la grand-mère, de sa maman, qui venait de la grand-mère, etc. Le linge, voilà, le drap épais de coton, etc., dont on dormait dans nos mains. Aujourd'hui, on va chez Ikea, on achète une commode, et puis dans 5 ans, quand on fera déménager, on jettera la commode d'Ikea, et puis on en rachètera une autre. Le vintage, en fait, c'est décélération, dysfonction. Vous voyez, c'est toujours le contre-coup de l'accélération, vous voyez. Bien sûr, ah bah oui. Donc nous perdons, par tous ces phénomènes, hein, nous perdons ce que Rosa appelle la vie comprise comme un projet étendu dans le temps. La vie comprise comme un projet étendu dans le temps. La vie comprise comme un projet étendu dans le temps. Alors, on va faire un peu de philosophie, mais au lieu d'un vrai développement narratif, c'est-à-dire, c'est une idée qui vient de Paul Ricoeur, c'est-à-dire au lieu de vivre sa vie comme une narration, c'est-à-dire comme une histoire. Nous reviendrons dessus sur l'identité narrative, ce qu'on appelle l'identité narrative. Chaque vie se décompose en un kaléidoscope de ce qu'il appelle des identités situationnelles, c'est très simple, ou séquentielles, ou discontinues, qui n'entrent plus ou qui n'entrent pas dans une histoire, mais qui surfent sur la vague. Oui. Bien, par exemple, je reprends cet exemple douloureux, bon, qui est une exception, mais qui dit quelque chose de notre société, voilà, la possibilité ou la volonté de changer de sexe. Vous voyez, on est dans une identité situationnelle. J'ai été ça, aujourd'hui, je suis ça. Oui. Et il dit très bien, vous voyez, avant, on disait, qu'est-ce que tu fais ? Je suis boulanger. Ça inscrivait dans le temps, ça disait quelque chose, ou je suis marié. Aujourd'hui, on dit j'ai tel métier, ou j'ai une épouse, etc. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce qu'on a la possibilité de changer de multiples fois, de multiples manières. Donc, du coup, on ne construit plus notre vie comme une narration, une identité narrative, mais comme des situations successives, des identités successives, où il n'y a plus de rapport, plus de lien. On retrouve le refaire sa vie, etc.
Intergénérationnel,
ah oui, par exemple, donc pendant des siècles, oui, pardon, c'est ça, pardon. Donc pendant des siècles, il fallait une multitude de générations pour qu'il y ait après un autre changement. Et donc on se passait les mêmes outils. L'arrière-arrière-grand-père était bûcheron, l'arrière-arrière-grand-père était bûcheron, l'arrière-grand-père était bûcheron, l'arrière-grand-père bûcheron, et puis on à la hache, etc. Puis à un certain moment, il y a eu un changement de technique, etc. On est passé à une autre génération de bûcherons. Donc, il fallait des siècles pour qu'il y ait un changement générationnel, en fait. Donc, c'est-à-dire une évolution technologique, un changement de rapport social, etc., de rythme de vie. Et puis, depuis la modernité, en fait, il y a une accélération d'amplification. Et donc, on change de technique, on change de système social et de rythme de vie d'une génération à une autre. Et par exemple, mon papa... Lui, il est né dans la génération des disques vinyles, du poste radio, de la voiture 4 chevaux. Et moi, je suis né dans une génération, alors c'était un petit peu encore proche, mais il n'y a plus de disques vinyles, le casque des écouteurs. Pensez à l'évolution du téléphone. Il y a des générations qui naissent aujourd'hui. Moi, je suis né dans une génération, j'ai encore connu le téléphone à cadran. Enfin, vous savez, comme ça. Et maintenant, j'ai un iPhone. L'enfant qui naît aujourd'hui, il ne sait plus ce que c'est.
Son montre à la fois le sait comme image d'un téléphone à fil.
C'est ça. Il disait, qu'est-ce que c'est, ouais. Et alors, l'intragénérationnel, si vous voulez, c'est qu'au sein même de votre propre vie, il y a un changement qui va s'opérer, ouais. Et c'est pour ça que le jeune homme, à votre travail, il est capable de vous en apprendre, de vous instruire. C'est-à-dire que ça va tellement vite que il sait plus que vous, en fait.
Ça dépend si on regarde, mais il sait quand même.
Alors, il n'y a pas tout, mais au moins, au cas de l'évolution technologique, etc. Bien sûr, après, voilà. Mais tout, bien sûr que derrière, il y a... Est-ce que c'est une critique, donc ça veut dire que voilà, tout ce qui est de l'ordre de la sagesse, tout ce qui est de l'ordre d'un savoir à transmettre, etc. Mais pourquoi travailler sa mémoire puisque nous avons tout ce qu'il faut pour la stocker à l'extérieur ? Alors, ce changement permanent qui s'opère pour lui-même, il produit toujours ce paradoxe, vous voyez, d'une impression de piétinement. Il peut produire une impression de piétinement. En effet, si tout change et très vite, si rien ne dure suffisamment pour marquer un passage, vous voyez, c'est ça, Véronique, il n'y a plus le passage qui est marqué. Si surtout le mouvement vaut pour lui-même et n'a plus de finalité, alors le progrès qui était encore, vous voyez, une utopie de la modernité, c'est-à-dire on allait vers quelque chose, aujourd'hui, il n'y a même plus cette notion de progrès, parce que tout s'accélère tellement, vous voyez, on a l'impression qu'on vit une crise d'épilepsie. Et du coup, alors voilà, bon, je termine par cette phrase de Rosa. Alors, il dit, bien plus que les radicaux antimodernistes, c'est-à-dire ceux qui voudraient arrêter l'accélération, vous voyez, revenir en arrière, vous voyez, le c'était mieux avant, type Zemmour, alors il dit, le nouveau paradoxe, bien plus que les radicaux antimodernistes, c'est le succès et l'omniprésence de l'accélération qui sape et érode les préconditions de l'accélération future et la stabilité de la société de l'accélération. C'est-à-dire qu'on est tellement pris dans ce mouvement d'accélération qu'on n'a même pas le temps de poser les conditions de la société future et de sa stabilité. Donc, ce n'est pas du tout le retour en arrière. Enfin, vous voyez, voilà, ceux qui disent faut tout arrêter, il faut retourner en arrière, c'est la conséquence, en fait, c'est le même phénomène que cette accélération. Ça va tellement vite qu'on n'arrive même plus à envisager la stabilité de la société future. Alors, un dernier point de ce livre, hein, vous voyez, qui est majeur, et qui, enfin, je trouve, j'espère, enfin, que vous sentez que c'est un texte important, parce qu'il donne une grille de lecture intéressante, que j'ai intitulé « Et la morale dans tout cela ». Alors, dans un autre ouvrage qu'il a écrit après Accélération, qui s'appelle « Accélération et aliénation », Rosa va insister sur cette connexion productiviste d'une éthique minimale et d'une rentabilité maximale. Donc, je vais vous expliquer tout ça. On vit dans une société où il n'y a plus d'impératifs moraux. Ou du moins, ils sont réduits au minimum. Il n'y a plus de « tu dois faire ça »,« tu dois être comme ça », etc. Mais il dit que ces impératifs moraux sont remplacés par des injonctions temporelles, lesquelles, pour être plus cachées, n'en sont pas moins despotiques. Alors, je vais expliquer. Hein. Bon. Alors, il dit que... c'est encore une phrase de lui, pardon, mais après, j'essaierai de traduire. Il dit, la société moderne n'est pas régulée et coordonnée par des règles normatives explicites. Il n'y a pas de constitution, si vous voulez, voilà, hein, qui dit comment il faut faire, comment il faut être, comment il faut vivre. Mais notre société est régulée par ce qu'il appelle la force normative silencieuse de normes temporelles. En fait, on est assujetti par des normes temporelles. Lesquelles ? Par exemple, qui se présentent, dit-il, sous la forme de délais, de calendriers. de limites de temps. Et cela, alors dans notre monde productiviste, capitaliste, libéraliste, tout ce que vous voulez, pour, dit-il, une rentabilité maximale. Alors, on en a un exemple, mais alors ça ne vous parle pas, mais c'est ce qui s'est passé hier. Voilà. Ce qu'on appelle le Black Friday. Voilà. Voilà, le vendredi fou. Alors, quand j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, en fait, vous savez qu'avant le Black Friday, on célébrait jeudi le Thanksgiving Day. Donc, un jour de gratuité, on se retrouve normalement en famille, on partage la dinde, bon, c'est lié à un épisode. Mais les Américains, voilà, comme ça, on connaît, le lendemain, donc c'est 4 jours fériés, voilà, vous vous retrouvez en famille, etc. Mais le lendemain, c'est ce qu'on appelle le Black Friday, ou le samedi fou, le vendredi fou, etc. En fait, il y a un jour de consommation. Parce que le Thanksgiving, on s'offre des cadeaux, etc. Donc, et ça arrive chez nous. Et donc, on a été martelé de « faites ce que vous voulez », mais en fait, tout vous est permis, c'est le Black Friday. Mais tout vous est permis quoi? Mais de consommer. Et dépêchez-vous, parce que ça, demain, c'est fini. Ouais. Donc, il n'y a plus le « tu dois faire ça », mais en fait, ouais, on est pris dans des normes silencieuses, injonctives, qui nous disent quoi en fait? Consomme. Donc là, nous sommes, nous, sujets modernes, comme décrits comme n'étant restreints qu'à minima, ouais, par des règles et des sanctions éthiques. Vous voyez, il y a plus de règles édictées, donc il y a moins de sanctions éthiques, donc on est plus libre, d'une certaine manière, enfin, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et donc, tu es libre, hein, tous les jeunes vont vous dire ça, je suis libre, je fais ce que je veux, etc. Alors qu'en fait, on est régenté, on est dépendant, dominé et réprimé par un régime temps. Voilà. Qui est en grande partie invisible, dépolitisé, indiscuté, sous-théorisé et inarticulé, dit Rosa. Alors, je vais vous prendre un exemple. Il dit le relativisme. Ce n'est pas d'abord une philosophie, ce n'est pas d'abord une idéologie qui est mise en place, qui est réfléchie, etc. C'est un effet de l'accélération. Et ça, je trouve ça génial. Et donc, on ne peut qu'obéir au relativisme. Non pas parce que c'est moral, mais parce que c'est le régime temps qui nous y oblige. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, il repose ni sur une doctrine philosophique, ni sur un appel à la tolérance, mais sur un tempo précipité. Vous voyez, quand tout s'accélère, bah, tout ne peut plus être que relatif. On ne peut plus penser. Vous voyez. Bon. C'est le monde du bref, du tweet, etc. Ah oui, petite image, voilà, ça c'est pour vous détendre avant de faire la pause. Voilà. Voilà tout ce que vous pouvez trouver comme injonction silencieuse, massive, dans toutes les bonnes gares ou les bonnes librairies. Je n'ai rien contre les gens qui font ça, mais bon, c'est un autre terme, etc. Mais pensez ressources humaines. C'est très intéressant d'être fort dans les ressources humaines, mais finalement, derrière, c'est pour que le sujet réponde au mieux sur les normes temporelles et de consommation, de production qui nous sont proposées. Quoi. Je me souviens qu'un livre était sorti il y a quelques années qui disait attention de vouloir appliquer ce que l'on applique dans les entreprises pour les modèles de société. Parce qu'en fait, on se rend pas compte que des fois derrière, il y a des c'est pas du tout pour que le sujet s'épanouisse, c'est pour qu'il produise plus et consomme plus. Peut-être qu'une petite pause vous ferait du bien. Petite pause temporelle. Hein? Pour mieux après vous asservir à nos thèmes, à notre thématique. Voilà.